je suis heureux de vous retrouver dans un décor majestueux sur les hauteurs du Jura, au fort de Joux, où fut enfermé un personnage trop méconnu, mais qui pourtant a changé la face du monde, Toussaint Louverture. Originaire d'Afrique, né esclave au XVIIIe siècle dans la colonie française de Saint-Domingue, l'actuel Haïti, Toussaint Louverture réussit à échapper à la servitude pour devenir un général et un homme politique de génie qui, depuis son île des Caraïbes, montre la voie à suivre. Si la France commémore, chaque 10 mai, l'abolition de l'esclavage, c'est en grande partie grâce à lui. Meneur d'hommes, séducteur, visionnaire, Toussaint Louverture entre dans la lumière à 50 ans et décide de lancer son grand projet, libérer les esclaves de Saint-Domingue pour en faire des citoyens français à part entière. Mais pour y parvenir, il doit se dresser contre l'ordre établi, les colons et leurs plantations sucrières si lucratives. Il trouve aussi sur sa route un homme, un certain Bonaparte, premier consul de France. Toussaint, Napoléon, l'affrontement de deux stratèges, deux figures d'exception de chaque côté de l'Atlantique. Dans le sillage de Toussaint Louverture, nous allons également croiser ceux qui épouseront sa cause. Solitude, une femme métisse devenue une légende de la liberté en Guadeloupe. L'abbé Grégoire, un héros discret de la Révolution française, qui a permis la première abolition de l'esclavage en pleine terreur. Et Victor Schœlcher, l'homme qui obtient son abandon total par la France au XIXe siècle. Mais cette victoire prend sa source dans les Caraïbes, sur l'île de Saint-Domingue. En 1801, Toussaint Louverture en est le gouverneur. Avec lui, les esclaves en révolte y apprennent la liberté. Mais pour Toussaint, ce n'est qu'une étape. Il voit déjà plus loin.
Vous écoutez Secret d'Histoire, Toussaint Louverture, la liberté à tout prix. Première partie.
La terre de Toussaint est voisine de la Jamaïque et de Cuba, dans la mer des Caraïbes. C'est la colonie française de Saint-Domingue, la partie ouest de l'île d'Hispaniola.
En 1802, l'île de Saint-Domingue, ça n'est plus tout à fait ce qu'elle était avant l'insurrection.
Jacques de Cona, historien.
Elle a perdu, je dirais, presque 80% de sa puissance économique. Parce que c'est ça, d'abord, Saint-Domingue. C'est une puissance économique, c'est la plus riche des colonies du monde.
Saint-Domingue, à l'époque de l'Ancien Régime, produit plus de sucre que toutes les autres colonies dans le monde.
Pierre Branda, historien.
Donc c'est véritablement la perle sucrière et c'est une île qui procure des revenus considérables à la France.
Qui fait quasiment la moitié du commerce extérieur de la France. Plus que ce que les Anglais ont jamais fait avec toute l'Inde, l'Australie, le Canada, tout ce que vous voudrez.
C'est un pays qui a été très largement rempli d'esclaves. On estime à peu près qu'il y a 450 à 500 000 esclaves.
C'est littéralement de l'argent, l'esclavage. On fait travailler les humains sans avoir à les payer, sans qu'ils aient aucun droit.
Et les esclaves s'étant libérés, ayant quitté l'outil de travail, la plantation, il n'y a plus cette force de travail gratuite et nombreuse. La colonie s'effondre. Et Toussaint réussit, par son organisation militaire, à restaurer une partie de cette splendeur. Il arrive encore à laisser l'espoir à la France d'une colonie qui va renaître de ses cendres, une colonie diminuée, mais qui reste encore un mirage colonial, un Eldorado.
Toussaint Louverture entend diriger son île à sa guise et l'affirme haut et fort comme personne n'a jamais osé le faire dans une colonie d'esclaves.
En juillet 1801, Toussaint Louverture promulgue une constitution de 77 articles montrant que les habitants de l'île sont libres et égaux et demeurent français. C'est une copie, un décalque aussi de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Il se vit aussi comme un homme exceptionnel puisqu'il se confère le statut de gouverneur à vie.
Rokhaya Diallo, journaliste.
Il veut installer non seulement son pouvoir, son héritage, et il a une vision sur ce que doit être son île.
Donc, pour qu'il puisse agir, il faut qu'il ait tous les pouvoirs, qu'il devienne le père de la nation.
Sauf que en 1802, en France, c'est arrivé au pouvoir depuis 2 ans le premier consul Bonaparte, qui lui aussi est audacieux et qui est un homme d'ordre, qui ne supporte guère qu'on lui résiste.
Il voit surtout en lui un concurrent, quelqu'un qui s'empare du pouvoir sur une partie du territoire français.
Ben, Toussaint est sur son île, Bonaparte est né dans une île, la Corse.
Dany Laferrière, membre de l'Académie française.
Les insulaires ont un caractère particulier. C'est un endroit où l'on peut se croire facilement roi.
Napoléon, qui est un bon connaisseur des hommes, qui n'a jamais rencontré Toussaint Louverture, l'a très vite jugé au regard de sa correspondance.
Jean-Christian Petit-Fils, historien.
Rusé, astucieux, sans méfier, avait-il écrit sur une petite note.
Toussaint Louverture admire Bonaparte, hein, lorsqu'il lui écrit le premier des Noirs au premier des Blancs, donc il y a une admiration.
Toussaint Louverture se compare au premier consul. Et dans ses correspondances même, il y a une certaine arrogance montrant qu'il est son homologue noir des Antilles.
Bonaparte ne connaît pas les Antilles, hein. Il ne s'y est jamais rendu, il ne s'y rendra jamais. Donc en fait, tout ce qu'on lui décrit de cette région du monde vient de ceux qui ont connu les Caraïbes, Saint-Domingue, aussi la Guadeloupe, la Martinique. Il a épousé une créole, Joséphine.
Sa femme, qui avait des biens à Saint-Domingue, on l'oublie souvent.
Et celle-ci lui a présenté beaucoup de colons. C'est toute une société qui, depuis 2-3 siècles, s'est développée en France autour de ces colonies et qui donc existe toujours quand Bonaparte prend le pouvoir et qui intrigue, qui fait pression pour, évidemment, reprendre pied dans cette région du monde et revenir sur l'abolition de l'esclavage. Bonaparte n'était pas, à proprement parler, quelqu'un d'influençable, mais enfin, il écoutait beaucoup, et il questionnait. Le problème, c'est qu'il a questionné surtout les mêmes, et que donc, il a obtenu les mêmes réponses. Il s'est donc fait son opinion.
Reprendre la main à Saint-Domingue permettrait en outre à Bonaparte d'assouvir une ambition qu'il garde en tête depuis l'école militaire, placer la France aux premières loges en Amérique.
Alors, Napoléon a un grand projet, c'est de créer un ensemble colonial allant des petites Antilles à Saint-Domingue, à la Louisiane.
On peut peut-être espérer que les Espagnols nous céderont la Floride, le Mexique. Donc, en fait, se dessine dans l'imaginaire de Bonaparte un vaste ensemble américain. Et dans cette région du monde, qui est la richesse, c'est l'exploitation, une denrée coloniale.
Alors, Napoléon a des visées qui sont en opposition avec l'ambition de Toussaint de créer un État d'abord autonome et bien évidemment indépendant à terme.
Bonaparte contrarie Toussaint car pour réaliser son rêve américain, il veut revenir sur les acquis de la Révolution française et des droits de l'homme en rétablissant l'esclavage dans les colonies. Et en France, le contexte de l'époque l'y encourage.
Au XIXe siècle, c'est vraiment l'avènement en fait de la science et de la volonté de tout expliquer par la science. On vient commencer à stratifier des catégories raciales.
Pour vous justifier qu'en fait il puisse se maintenir un esclavage, qu'il puisse y avoir encore des esclaves malgré que l'égalité soit devenue un droit fondamental dans la République française, eh bien il faut, si je puis dire, inventer une exception, un préjugé de couleur.
Un livre est publié dans ce but par un certain Julien-Joseph Viret, médecin, pharmacien et anthropologue. Il est aujourd'hui conservé à la Bibliothèque nationale de France.
Avec l'histoire naturelle du genre humain de Julien-Joseph Viret, on aborde tout un courant idéologique à prétention scientifique qui va nous conduire aussi, bien entendu, au nazisme et à ses prétentions scientifiques. L'objectif de ce livre, c'est d'établir scientifiquement l'existence de races, l'inégalité de ces races, donc la hiérarchie entre ces races, la race blanche étant bien sûr la race supérieure et la race noire, la race inférieure. Alors, cette planche nous montre l'homme blanc qui a la perfection grecque, ensuite noir au visage très allongé et en dessous un orang-outan, un singe, pour bien montrer l'analogie entre le noir et l'orang-outan. La race nègre, comme il dit, eh bien, c'est un intermédiaire entre l'homme et l'animal. Quand on lit ce texte, il y a beaucoup de fantasmagories. Pour lui-même, l'os occipital, donc qui permet au nerf de pénétrer dans le cerveau, est différent selon les races. C'est pas scientifique. Et aujourd'hui, c'est complètement balayé par toutes les découvertes, et notamment celle du séquençage du génome humain. On sait aujourd'hui que le patrimoine humain est commun à l'ensemble des peuples de la Terre, à 99,9%, les seules différences étant des différences de pigmentation, mais c'est extrêmement limité. Il n'y a pas de race humaine plurielle.
Au XIXe siècle, on assiste à un tournant parce que on attribue de manière définitive à la couleur noire un statut qui est un statut d'inférieur, qui justifie l'exploitation, qui justifie la violence, qui justifie la déshumanisation.
Donc Bonaparte veut rétablir l'esclavage. Il va le faire très doucement. En tout cas, au début, il ne prévient personne. Mais l'idée est bien de rétablir l'esclavage à Saint-Domingue.
Pour reprendre pied à Saint-Domingue et donc reprendre l'autorité de cette grande île à Toussaint l'Ouverture, Bonaparte envoie une expédition gigantesque. Il met à la tête de cette expédition son propre beau-frère, le général Leclerc, qui a épousé sa sœur Pauline. Bonaparte envoie une expédition aussi importante que l'expédition d'Égypte. Ce sont des dizaines de bateaux, des dizaines de milliers d'hommes.
Leclerc, à son arrivée, est porteur d'une lettre de Napoléon dans une boîte d'or pour donner de l'importance à cette missive.
Bonaparte, il remercie chaleureusement Toussaint pour ses services. Il lui explique que, eh bien, s'il est un patriote, il ne peut que se féliciter de cette reprise en main de la colonie et qu'en fait, il compte sur son patriotisme pour céder la place.
Il sent la flatterie d'un homme qui prépare un mauvais coup.
Vous serez le premier à rendre hommage à la souveraineté de la nation. Une conduite contraire serait inconciliable avec l'idée que nous avons conçue de vous et creuserait sous vos pas un précipice qui, en vous engloutissant, pourrait contribuer au malheur de ces braves Noirs dont nous aimons le courage et dont nous nous verrions avec peine obligés de punir la rébellion.
Flatterie, menace, mensonge. Le plus gros de ces mensonges étant que, mais de quoi vous plaignez-vous, cette expédition va renforcer la liberté des Noirs.
Je pense qu'il a pris ça comme une gifle.
Et là, Toussaint va s'offusquer et va répondre d'une façon assez cinglante.
Citoyen consul, si le peuple ne jouit pas ici de toute la liberté qu'on trouve sous d'autres gouvernements, il faut en chercher la cause dans sa manière de vivre, dans son ignorance et dans la barbarie inséparable de l'esclavage.
Lettre de Toussaint l'Ouverture, adressée à Napoléon Bonaparte, élue par Dany Laferrière, membre de l'Académie française.
Le gouvernement que j'ai établi pouvait seul convenir à des malheureux à peine affranchis du joug oppresseur. On ne devrait pas m'envier l'amour et la confiance des pauvres Noirs, mes compatriotes. La postérité décidera si nous avons été obéis par affection, par apathie ou par crainte. C'est directement à Bonaparte qu'il parle. Vous offrez la liberté aux Noirs en disant que partout où vous avez été, vous l'avez donnée à ceux qui ne l'avaient pas. Je n'ai qu'une connaissance imparfaite des événements qui ont eu lieu récemment en Europe, mais les rapports qui me sont parvenus ne s'accordent pas avec cette assertion. En un mot, vous êtes un menteur. En envoyant cette expédition pour faire rentrer les cultivateurs dans les plantations et les faire redevenir esclaves, l'Europe vient de passer dans la sauvagerie, tandis que Toussaint est devenu moderne parce que c'est lui qui proposait une société civile.
La Rochelle. C'est d'un port comme celui-ci que se lance l'armada du général Leclerc, envoyée à Saint-Domingue par Bonaparte. Nous voici au sommet de la tour Saint-Nicolas, la plus emblématique de la ville. Saint-Nicolas est le patron des marins et depuis sa construction au XIVe siècle, la tour a vu partir puis revenir bien des bateaux. Au siècle de Toussaint, on en dénombre plus de 470 qui se lancent en direction de l'Afrique et transportent environ 160 000 esclaves vers les colonies françaises de la Caraïbe. Après des mois de traversée, les bateaux sont de retour dans le vieux port, chargés de canne à sucre transportée sous forme de mélasse, qui est ensuite transformée à La Rochelle dans l'une des 16 raffineries de la ville. La Rochelle est alors, avec Nantes et Bordeaux, l'un des ports les plus actifs du commerce transatlantique. Et c'est dans ce monde que va naître, vers 1740, un enfant du nom de Toussaint, au nord de Saint-Domingue, sur la plantation Bréda. Quelle chance a-t-il d'échapper à son destin d'esclave ?
Toussaint est sur la plantation Bréda. C'est pour cela qu'on l'appelle Toussaint Bréda. Le 20 mai 1743.
Toussaint est né dans le haut du Cap, là où il y avait les plus grandes latifundias, les plus grandes propriétés. C'est là où vivaient les plus riches planteurs.
La propriété appartient au comte de Noé, qui est resté en France, et son gérant, Bayon de Libertas, qui est un homme, semble-t-il, assez tolérant, et n'est pas un homme cruel, un maître cruel, va s'occuper de Toussaint.
Entourée de champs de canne à sucre, la plantation Bréda exploite alors 152 esclaves.
Une plantation de canne à sucre fonctionne comme un petit village, où chaque esclave a son rôle, son travail, qui passe au champ, mais également pour servir le maître, dans l'habitation, mais également toutes sortes de métiers pour faire fonctionner en autarcie complète, en totale autonomie, la plantation.
Il y avait la grande case, qui était la maison des maîtres. Il y avait un peu tout autour, mais pas trop près, parce que les cases des esclaves avaient mauvaise odeur, pensent les maîtres. Mais assez près aussi pour que le maître puisse observer le mouvement qui se faisait dans la grande cour.
Il y a une hiérarchie entre les esclaves. Il y a ceux qui travaillent dans les plantations, qui vivent dans les cases, qui sont très éloignés. Et puis, il y en a d'autres qui sont proches du lieu du propriétaire ou de l'intendant et qui sont ses domestiques, qui servent parfois à encadrer aussi les esclaves de catégorie inférieure.
Aujourd'hui, il ne subsiste plus rien de la plantation Bréda en Haïti. Seule une statue de Toussaint marque son emplacement. Mais à quelques kilomètres de Cap-Haïtien, à Cartier-Morin, les ruines de la sucrerie du Plat évoquent l'une des premières habitations coloniales de Saint-Domingue.
C'est à du Plat qu'on a fixé le format des grandes plantations.
Pierre Buteau, historien.
À partir de ce moment, ça s'est généralisé. C'est un atelier. Comme on parle d'aujourd'hui d'une usine, c'est un atelier, c'est une grande unité de production. On ne pense qu'à la production. On regroupait plus d'une centaine d'esclaves répartis dans diverses tâches. Et le lieu centre, c'est le moulin. Mais en amont, il y a la grande plantation, la canne. Il y a les coupeurs de canne, il y a les sancleurs, il y a ceux qui plantent la canne. Ça n'arrêtait jamais de travailler.
À l'époque de Toussaint, la plantation du Plat regroupe plus de 200 esclaves, répartis sur près de 300 hectares. Elle produit le meilleur sucre de la région, sous l'appellation « les délices de la reine ». Mais à quel prix ?
Le taux de mortalité était très élevé sur une plantation. Un esclave plongé dans l'enfer des ateliers, sa durée de vie n'excédait pas 10 ans.
Le propriétaire peut perdre des esclaves sans s'en apercevoir. Il y a beaucoup d'accidents Et il arrive même, par exemple, au moment de faire le sirop de canne, que des esclaves se prennent la main dans le moulin et mettent une autre main pour sauver la main qui a été prise et perdent les deux bras. Il y en a qui passent tout entier. Il faut arrêter la machine un moment pour sortir le corps et l'enterrer tout de suite pendant que la machine roule, tout de suite après. Ça n'arrête pas l'atelier. C'est ça qui est extraordinaire. C'est « The show must go on ».
La cadence de travail est rythmée par le commandeur, un esclave armé d'un fouet.
Voilà la grande trouvaille du colon, c'est de faire en sorte que des Noirs punissent d'autres Noirs.
Le fouet, c'est l'objet symbolique de la domination parce qu'on vit en fait dans la crainte de le voir s'abattre sur soi, pour un oui ou pour un non. Et on avait même théorisé la manière dont on devait punir les esclaves dont on estimait qu'ils le méritaient, c'est-à-dire qu'on théorisait le fait qu'il valait mieux leur donner 25 coups de fouet sur une durée lente que 50 coups de fouet sur une durée plus courte.
Et la loi est stricte et formelle. Le commandeur a tous les pouvoirs. On ne lève pas la main sur un commandeur sous peine de mort immédiate.
La vie de l'esclave est régie par les 60 articles du Code noir, préparés par Colbert et promulgués par Louis XIV en 1685. Il y est réduit à un bien meuble, mais peut dénoncer les mauvais traitements qu'on lui inflige, en théorie.
Le Code noir ordonnait au maître de prendre soin des esclaves, mais les esclaves étaient mal entretenus et torturés même. Il y a eu une anecdote. Dans une soirée, Madame Chancy était vraiment... Et quelle maîtresse de maison, tout le monde était content. Et puis, ce qui s'est passé, le rôti a eu des problèmes et on n'a pas aimé. Eh bien, Madame Chancy, cette femme belle, élégante, souriante, avenante, a invité l'esclave à entrer dans le fourneau pour être grillé. C'est abominable.
Les Blancs, les esclavagistes sont minoritaires sur le plan numérique. Donc, pour asseoir leur domination, ils sont obligés d'instaurer un régime de terreur, c'est-à-dire de jouer d'une pression psychologique qui fait comprendre aux personnes qu'ils exploitent qu'à tout moment, leur vie peut prendre fin et leur intégrité physique peut être mise en péril.
Toussaint est témoin de cette violence, mais il grandit dans des conditions plus favorables que les autres esclaves de la plantation.
Il n'est pas fils d'esclave au champ, sa famille est déjà affranchie et donc il échappe un petit peu à ce cercle difficile, brutal de l'esclavage. Même s'il reste dans cet univers, il est tout de même un petit peu plus privilégié, un petit peu plus seulement.
Il a eu beaucoup de chance autour de lui de rencontrer des gens qu'il aimait, ce qui lui a permis d'avoir une petite distance avec les événements. Il n'a pas été dans la fournaise et de l'esclavage dur.
Toussaint, à la naissance, est un enfant chétif, malingre. On l'a appelé patrabâton, hein, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut jeter, qui a un physique ingrat.
Il n'était pas grand du tout, mais il était déterminé.
Il a envie de s'en sortir. Il n'a pas du tout le tempérament à se soumettre et à obéir.
Il a eu de la chance d'apprendre à lire assez tôt de son parrain, Pierre Baptiste, qui lui a appris. Il aimait beaucoup lire.
Il était très peu commun que des personnes qui étaient nées sous le régime de l'esclavage en tant que victimes aient accès à une forme d'instruction. Et en ça, Toussaint Louverture se distingue particulièrement.
On remarque tout de suite que c'est quelqu'un d'intelligent dont il faut finalement valoriser et exploiter d'une autre manière les talents.
Il s'est mis à développer, pas seulement ses muscles, mais surtout sa volonté. Il s'est mis à devenir un cavalier très jeune, enfant. Bayon de Liberta, qui était le régisseur, l'avait pris tout de suite sous son aile. Il en a fait son cocher.
Il a des talents pour s'occuper des chevaux. Il sera un excellent cavalier.
Personne ne pouvait le rattraper sur un cheval. Et il aimait la nature. Et il était ce qu'on appelle un médecin feuille. un médecin qui guérissait par les feuilles, qu'on appelle à Saint-Domingue, en Haïti, docteur Feuille.
Le mystère plane toujours sur les origines exactes de Toussaint. Il descendrait des Aladas, établis sur les rivages de l'Afrique de l'Ouest. Mais qui étaient ces Aladas ? Aujourd'hui, au Bénin, il existe une ville du nom d'Alada où le père de Toussaint, Hippolyte, est célébré tel un prince. Était-il de sang royal ? Ce qui est certain, c'est qu'à la fin des années 1730, il a dû monter à bord d'un bateau en partance pour la Caraïbe et devenir un esclave, victime comme tant d'autres de la traite transatlantique.
La traite transatlantique, c'est l'une des plus grandes déportations de l'histoire humaine. Hein. Entre 11 millions, on parle même de 15 millions d'individus, seront déportés de l'Afrique sur les Caraïbes pour exploiter le sucre, le café, le coton.
C'est le commerce triangulaire qui est ce commerce pratiqué par les pays d'Europe occidentale. Ça englobe aussi bien les Espagnols, les Portugais, que les Anglais, que les Hollandais.
C'est la vision économique de l'Europe au XVIIIe siècle.
Ce qui se joue, c'est la guerre du sucre, dont la demande explose en Europe. Pour le cultiver, la France s'empare notamment de Saint-Domingue, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Grenade. Au XVIIe siècle, les populations indigènes de ces îles ont été exterminées. Il faut donc trouver de la main-d'œuvre ailleurs.
Des navires partent d'Europe pour acheter des esclaves sur les côtes africaines, notamment sur l'île de Gorée au Sénégal. Ils repartent avec ces esclaves aux Caraïbes pour les vendre aux planteurs. Et lors de leur voyage de retour, ils chargent les denrées coloniales exploitées par d'autres esclaves et ainsi se bâtit ce qu'on appelait un commerce triangulaire.
On part avec de la babloterie, des cadeaux qu'on fait à quelques chefs locaux d'Afrique, lesquels ont aussi des rabatteurs pour ramener des esclaves.
On avait l'impression que les négriers, ils descendaient comme dans un aquarium, qu'ils pêchaient dans un aquarium. Ils ramassaient les gens.
On séparait les hommes, les femmes, des enfants dans des conditions de détention qui étaient absolument abominables. Ensuite, ces populations étaient embarquées sur des bateaux négriers et ces différentes embarcations, en fait, traversaient l'Atlantique pour être dispersées dans les Amériques.
Au XVIIIe siècle, Bordeaux est le deuxième port négrier de France après Nantes. Les traces de son passé subsistent partout sur les murs, au palais de la Bourse, avec ses mascarons, ces masques de pierre à l'effigie des esclaves africains. Ou encore, avec cette statue de Toussaint Louverture, sur les bords de la Garonne. Le musée d'Aquitaine conserve également dans ses collections une trace tangible du commerce triangulaire. Le journal de bord d'un bateau négrier.
Qu'il s'agit du journal de navigation du navire Le Patriote qui a quitté Bordeaux en 1788 au mois d'octobre pour revenir le 17 février 1791, donc pratiquement 24 mois de périple.
Christian Bloch, chargé de collection au musée d'Aquitaine.
Nous avons quelques mentions, même si elles sont très rares, qui sont relatives à l'ensemble de ces captifs qui sont emprisonnés à bord du navire, à fond de cale, dans des conditions tout à fait inimaginables. Et nous avons donc des populations, aussi bien hommes, femmes qu'enfants, jeunes garçons et jeunes filles, qui sont entassés dans différents endroits du navire et qui vivent au milieu de leurs excréments et des vomissures. Donc des conditions tout à fait terribles, dans lesquelles, évidemment, maladies et épidémies ne cessent de se propager.
Les témoignages d'esclaves sont rares. Gustavus Vassa, victime de la traite britannique, a rapporté ce qu'il a vécu dans la cale d'un bateau.
On me plaça sous les ponts où mes narines reçurent un tel salut que de toute ma vie je n'avais jamais connu. De telle sorte qu'entre la particularité répugnante, des odeurs nauséabondes mêlées à des pleurs, je me rendis si malade et si faible que je n'avais ni la force de manger, ni le moindre désir de goûter à quoi que ce fût.
Au total, sur les 216 captifs qui ont été embarqués à bord de ce navire, 61 d'entre eux ne survivront pas à cette tragédie. L'horreur de ce journal de bord, justement, nous témoigne d'une comptabilité tout à fait macabre, puisqu'à côté, finalement, des remarques liées à la météo tout à fait innocentes, vous voyez apparaître de temps en temps un certain nombre de croix qui témoignent du décès de ces esclaves. Et voici ce qu'il écrit le vendredi 28 mai 1790. « Beau clair de lune, le temps toujours le même. » À 11h15, je fis monter une assez jolie négresse dans ma chambre. Je passai 2 heures avec elle et l'exploitai 2 fois. C'était la première femme que j'avais vue depuis mon départ de France. Beau temps. Nous avons la trace, ici, vous voyez, d'un viol. Donc les maltraitances sont en permanence et à tous les niveaux. Elles le sont effectivement physiques, mais elles le sont aussi psychologiques. C'est pour ça que ces navires sont aussi équipés généralement de filets pour éviter eh bien, que les esclaves, les captifs qui voudraient se suicider tombent à l'eau et que l'on puisse les récupérer.
La résistance existe à toutes les étapes de la déportation massive de ces populations africaines. Aussi bien avant l'embarcation sur les bateaux négriers que sur ces bateaux, où des révoltes existent régulièrement, où elles sont réprimées dans le sang.
Toute la grande culture européenne expliquait que c'est normal, que ces gens-là ne peuvent pas avoir une âme.
On est dans un système de déshumanisation profond. La race noire, comme on disait à cette époque, eh bien, est inférieure et même peut-être n'appartient pas à l'humanité.
Un esclave ne peut être affranchi que par la volonté de son maître. À 33 ans, Toussaint obtient sa liberté de Bayon de Libertà, qui a toujours apprécié son audace et son habileté.
Toussaint est affranchi vers 1776 et petit à petit, il s'établit dans l'île. Alors d'abord, il dirige d'autres esclaves, puis il acquiert une plantation.
Très rapidement, il va devenir petit exploitant d'une sucrerie avec quelques esclaves, 10, 15, 20.
Il développe plusieurs affaires qui lui valent un statut économique plutôt enviable pour l'époque.
Il appartient à la catégorie intermédiaire entre les colons et les esclaves.
C'est quelqu'un qui a un statut plutôt de confort.
Mais Toussaint fait figure d'exception sur une île en proie à l'agitation où chacun rêve de changer l'ordre établi.
Toute la société de ces îles à sucre va rêver de liberté. Vous avez toute une hiérarchie aux Antilles. Vous avez dans le bas de l'échelle les esclaves, mais vous avez aussi des libres de couleur, des affranchis, vous avez également des métis, il y avait également évidemment les maîtres blancs. Les maîtres, les colons rêvent d'imiter les colons américains, d'obtenir une sorte d'autonomie, parce que la métropole, depuis très longtemps, les étouffe.
Ensuite, dans un second temps, les hommes de couleur vont dire « mais nous, nous voulons l'égalité ». C'est-à-dire, en plus de l'égalité économique, le droit d'avoir des plantations, etc., des biens, nous voulons l'égalité civique, les droits civiques.
Les libres de couleur sont les premiers à manifester pour obtenir cette égalité civile. Et puis, il y a la grande masse des esclaves.
Ceux qui n'ont droit à rien et qui, eux, veulent tout. Et essentiellement, pour commencer, la liberté et, si possible, la fraternité.
Il y a une effervescence incroyable. Des pétitions sont envoyées, des émissaires, des gens. Tout le monde fait activer son lobby et en France.
Car en France, au début de l'année 1789, la contestation est telle qu'une nouvelle ère semble devoir s'ouvrir, celle de la Révolution.
Vous venez d'écouter Secrets d'Histoire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Secrets d'Histoire sur les réseaux sociaux. Secrets d'Histoire est un podcast d'Initial Studio, adapté de l'émission de télévision éponyme produite par la Société européenne de production pour France Télévisions. Cet épisode a été écrit et réalisé par Bruno Deltombe. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg. Montage, Camille Legras, avec la voix d'Isabelle Benadje.